Au nom du collectif ANV Alternativa, on vous souhaite un heureux et militant séjour. Et je vais laisser Pauline nous présenter maintenant le national, le Alternativa ANV national, l'historique et la stratégie. Voilà, merci.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si, est-ce que vous préférez avec micro ou sans micro? Avec micro, c'est mieux. Ok. Alors, je vais prendre le micro. Donc, je m'appelle Pauline Boyer. Je suis membre d'Alternativa depuis 5 ans et une des salariées du mouvement global depuis 3 ans. Et donc, on commence les camps climat traditionnellement par le module fondamental, qui est celui que je vais donner ce matin, pour poser où est-ce qu'on en est par rapport au climat, quel est le diagnostic partagé par la communauté internationale, ce qui est fait par les États et les dirigeants, ce que nous, on en tire comme conclusion, et quelle stratégie on met en œuvre par rapport à ça. Et ça permet d'avoir un peu le fil global de tout ce qui motive nos différentes actions et la manière dont on les fait. Juste un petit sondage, est-ce que, donc pour qui c'est qui n'a jamais fait de formation avec Alternativa ou Action Environ COP21? Ok, super. Et qui est membre d'Alternativa local ou ailleurs d'ailleurs, ou d'ANV? Ok, super. Donc, ma présentation, elle va être en trois parties. On a fait le pari, on n'a pas de diaporama et tout, parce que dehors, on respire mieux. Enfin, on a encore un peu de temps avant la chaleur. Ça va durer à peu près une heure et demie. Si vous avez des questions, je vous propose de les garder à la fin, parce que peut-être que je vais répondre à vos questions au fur et à mesure du déroulé. Et en gros, ça sera divisé dans ces trois parties, vraiment le climat, où est-ce qu'on en est, comment on change le système et quelle est notre stratégie par rapport à ça. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? L'effet de serre, ce sont les rayons du soleil qui arrivent à la surface de la Terre, qui sont réfléchis par la Terre en partie, absorbés, réfléchis par la Terre, et il y a des gaz dans l'atmosphère qui absorbent cette chaleur. Et c'est ce qui permet qu'on ait la vie sur Terre. Parce que sans les gaz à effet de serre, on n'aurait pas une température de 15 degrés en moyenne à la surface du globe, comme on l'a en ce moment, et donc l'eau ne serait pas liquide et on ne pourrait pas avoir de vie à la surface de la Terre. Donc à la base, c'est un mécanisme qui permet la vie sur Terre. Depuis la révolution industrielle, donc les années 1850, 1870, on a commencé à utiliser du pétrole, du charbon et du gaz, qui, en brûlant, émettent des gaz à effet de serre. En quelques années, en 150 ans, on a atteint une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on n'a jamais connue en tant que Homo sapiens sur Terre. Donc depuis 800 000 années, on arrive à 400 parties par million, donc qui sont un peu la proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, alors qu'on n'a jamais dépassé les 300. Pour l'histoire, il y a 350.org, c'est une ONG qui s'est créée parce que 350 ppm, c'est ce qu'on ne devait pas dépasser pour ne pas déclencher le dérèglement climatique. Et donc, avec 1 degré, quelles sont déjà les conséquences? Les conséquences, c'est donc la multiplication des événements climatiques extrêmes. On le voit depuis plusieurs années. On a chaque année, on bat des records de chaleur à des endroits du globe, dont à des endroits qui aboutissent à vraiment des catastrophes. En Sibérie, le permafrost est en train de se dégeler. Donc c'est une grande surface de terre gelée. Le permafrost, c'est aussi ce qui fait le ciment des montagnes, qui permet que les roches restent agglomérées entre elles. C'est la multiplication des incendies. L'Amérique du Sud brûle de nouveau. L'Australie, l'année dernière, a été très choquante. C'est l'augmentation du niveau des océans. Donc là, il y a une augmentation du niveau des océans qui commence déjà à menacer les habitants insulaires. Et si on continue sur la même trajectoire qu'actuellement, la montée du niveau des mers menace énormément de personnes, puisque 50% des habitants habitent à moins de 100 km des côtes, donc sur toute la Terre. Donc vous imaginez le nombre de déplacements, de personnes, les impacts économiques, etc. que ça générerait. Un degré, c'est aussi se figurer la réalité de mourir de chaud. Mourir de chaud, c'est, au sens propre du terme, le corps qui n'arrive plus à se thermoréguler. Il n'arrive plus à faire baisser la température. Je parle sous contrôle du futur médecin. Et en fait, il n'arrive plus à transpirer, à suer. Et c'est, il y a des personnes en Inde, donc il y a eu un record de chaleur à 50 degrés, qui sont mortes de chaud, littéralement. Et on a en ce moment un risque, enfin 30% de la population qui est à risque de ça, de mourir de chaud, et ça sera 75% de la population d'ici à 2100 à cause du dérèglement des températures. Donc 1 degré, ça provoque le dérèglement du cycle de l'eau. On a, même chez nous, enfin, même si les impacts sont déjà beaucoup plus visibles dans les pays du Sud, même ici, on voit bien que là, cette année, tous les arbres, ils ont fleuri en même temps, les pommiers, les cerisiers, etc. Maintenant, les abeilles, elles crèvent de faim parce qu'il y a presque plus d'arbres en fleurs. Donc, on sent déjà les impacts au niveau des rendements agricoles, donc qui sont beaucoup plus importants pour l'instant dans les pays du Sud, mais qui commencent déjà à venir chez nous. On commence à remplacer, même ici, le maïs par du sorgho, parce que ça utilise moins d'eau. Donc, 1 degré, c'est quoi? Ce sont déjà des millions de migrants, de personnes migrantes, qui sont poussées sur la route parce qu'elles ne peuvent plus cultiver leurs terres, parce qu'elles n'ont plus assez d'eau. Et l'ONU prévoit 1 milliard de personnes migrantes en 2050, donc c'est bientôt, si on continue sur cette trajectoire. Donc l'immigration, c'est à la fois à l'intérieur des pays et à l'extérieur, c'est encore c'est une très faible proportion par rapport au nombre de personnes migrantes. Donc ça veut dire que les personnes qui traversent la Méditerranée sont vraiment un petit nombre de personnes par rapport au nombre global de personnes migrantes. Et donc ça aboutit à un mauvais traitement des personnes, parce que sur la route des migrations, les femmes se font violer, les personnes se font racketter, elles finissent dans des camps pendant des années en attendant un titre de séjour. Et donc, ça, dû à la raréfaction des ressources humaines, qui aboutissent donc à des tensions, à des conflits et à une déstabilisation des pays, une déstabilisation des démocraties. Et la caractéristique du dérèglement climatique, c'est qu'il exacerbe toutes les inégalités. C'est-à-dire que les personnes qui sont en première ligne du dérèglement climatique, ce sont les personnes les plus vulnérables, qui sont les personnes les plus pauvres. Et donc, 70% de la population pauvre est représentée par des femmes. Et donc, ce sont les femmes qui se trouvent en première ligne du dérèglement climatique pour plein de raisons différentes, parce qu'elles ont moins les moyens d'être résilientes, elles ont moins d'accès à l'économie, surtout dans les pays du Sud encore, par rapport aux différentes cultures. Il y a chaque jour des dizaines de milliers de femmes qu'on appelle les « brides of the sun » qui sont mariées parce qu'elles ont le choix entre mourir de faim ou se trouver un mari pour avoir potentiellement plus à manger, soulager la famille, pour avoir une bouche de moins à nourrir. Donc il y a vraiment des effets collatéraux qu'on ne se figure pas au premier abord. Et les femmes, ce sont aussi celles qui trouvent les solutions, qui sont confrontées les premières au dérèglement climatique. 85% des personnes qui travaillent la terre et qui cultivent la terre sont des femmes. Et donc, elles sont exposées au manque d'eau et donc, elles sont aussi les premières à innover pour trouver des solutions. Mais ce sont souvent elles qui ont beaucoup moins la parole. Donc, c'est aussi... mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, la multiplication des événements naturels extrêmes, c'est leur intensification et c'est le fait qu'ils soient donc plus fréquents et plus puissants. Un organisme d'assurance à Munich a publié en 2014 un rapport qui explique qu'en 30 ans, les événements climatiques extrêmes ont triplé. Donc on peut dire qu'on a déjà perdu une bataille. Là, on a déjà, avec nos modes de vie émetteurs de gaz à effet de serre, déclenché le dérèglement climatique. Un degré, c'est déjà une tragédie pour des millions de personnes. Et ce, malgré les alertes des scientifiques, parce que ça fait depuis les années 70 qu'il y a des rapports qui pleuvent régulièrement, qui expliquent pourquoi nos modes de vie ne sont pas compatibles avec une planète qui a des ressources finies. Pour autant, il y a encore une seconde bataille à gagner. Et celle-là, c'est celle de l'aggravation du dérèglement climatique. Parce qu'on a encore assez de pétrole, assez de charbon et assez de gaz dans la croûte terrestre pour brûler toute la planète. Et donc, pour, la question, c'est où est-ce qu'on va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on va arrêter d'exploiter les énergies fossiles ? Quand est-ce que, où est-ce qu'on va limiter le dérèglement climatique ? Parce que les conséquences, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les conséquences à 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés, 2,1 degrés, elles sont énormes. Enfin, elles sont complètement différentes. On ne peut pas dire oh, 2, 3 degrés, c'est bon, c'est 1 degré, c'est pas beaucoup. En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est chaque dixième de degré compte, parce que chaque dixième de degré, c'est un dérèglement. Le dérèglement est global. Et donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de zones qui deviennent désertiques, qui deviennent arides, etc. Et c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer maintenant. Et pourquoi on est regroupé ici sous le chapeau du climat ? Parce que nous, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, à la base, je ne suis pas forcément une militante climat. On arrive là-dedans par, par différentes portes. Moi, à la base, je suis sensible. Enfin, je suis arrivée par Greenpeace, donc sensibilité à l'environnement, et je me suis rapidement rendu compte que c'était une bataille sociale, une bataille pour la justice sociale, le climat. Et c'est ça le truc, c'est que on bataille pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on bataille pour la démocratie, contre le racisme. Toutes ces batailles-là, elles sont déjà difficiles à mener dans un monde avec plus 1 degré, où il y a déjà des facteurs de déstabilisation. Mais si on arrive dans un monde où on a à faire face à des incendies, des sécheresses, on perd notre maison, etc., on va avoir encore plus de mal à batailler pour tout, pour la justice, pour le respect des droits humains, etc. etc. Et c'est pour ça que cette bataille, elle impacte toutes les autres batailles, elle impacte les conditions dans lesquelles on va mener toutes les autres batailles pour la justice, pour la paix et pour l'égalité. Et cette bataille, elle est aussi globale. Elle est globale parce que même si au niveau de Besançon, on arrive à régler notre problème d'émissions de gaz à effet de serre, on devient exemplaire. Mais il faut que les autres aussi le fassent parce que les gaz à effet de serre, ils sont mélangés dans l'atmosphère et ce qui se passe en Australie, et ben, ça va nous impacter nous aussi. Donc c'est la caractéristique de cette bataille également. Et donc face à ça, face à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'est-ce que font les États ? Donc, les États se réunissent depuis, j'ai perdu le décompte, 25 ans pendant les COP. Ça va être la COP 25 ou 26 ? 25 ? Voilà, c'est ça, 2015 COP 21. Et bien justement, la COP 21. La COP 21, c'est quoi ? C'est l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est au bout de 21 années pendant lesquelles tous les pays du monde, à la fin, il y avait tous les pays du monde en tout cas, se sont réunis pour discuter du dérèglement climatique en lisant les rapports du GIEC, donc du groupement intergouvernemental des experts sur le climat, donc qui réunit des scientifiques du monde entier, qui épluche des rapports scientifiques, des articles scientifiques du monde entier, et qui en font une synthèse sur l'état de l'avancée du climat. De l'avancée du climat, de quelle est l'adaptation qui est nécessaire, etc., etc. Et ça, depuis 1988. Donc ça fait déjà assez longtemps quand même. Et donc ils se réunissent et au bout de 21 ans, ils trouvent un accord qui est ambitieux parce que l'objectif, c'est de limiter le dérèglement climatique à 2, voire 1,5 degré. Nous, on retient 1,5 degré parce que ça sera beaucoup mieux en termes d'impact social. Et puis, pour la première fois, les États signent un accord dans lequel ils disent les émissions de gaz à effet de serre viennent de nos modes de vie, et donc nous, on va s'engager à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les États ont fait des engagements. Et donc, quand l'accord de Paris a été signé, tous les États avaient donné une feuille de route avec leurs engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sauf que l'accord n'est pas contraignant, donc celui qui ne l'applique pas n'a pas de sanctions. Et en plus, dès le départ, donc le 12 décembre 2015, quand l'accord a été signé, il n'était pas à la hauteur de ce qui était écrit dans l'accord. C'est-à-dire qu'en additionnant la somme de tous les engagements pris par les États, on arrivait à une trajectoire de 3 degrés d'ici à la fin du siècle. Ça, c'est l'accord de Paris. C'est la réponse des dirigeants du monde entier au problème auquel fait face l'humanité et qui remet en question nos conditions de vie sur Terre. La France, dans cette organisation, la France a été l'hôte de la COP21. On a fait une campagne récemment qui s'appelle « Décrochons Macron ». On a décroché les portraits du président de la République des mairies. Pourquoi ? Pour dénoncer son double discours. Parce que la France n'est pas du tout exemplaire en termes de mesures mises en place pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, puisque la stratégie nationale bas carbone, qui est sa feuille de route pour expliquer comment et dans tous les domaines on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle n'est pas assez ambitieuse, elle est plutôt à 2 degrés qu'à 1,5 degré, et en plus elle n'est pas appliquée. Et ça, c'est le Haut Conseil pour le climat qui a été mandaté par Macron, qui l'explique dans les différents rapports, dont le dernier est sorti en juillet, le mois dernier. Donc là, si on regarde au niveau global, on est sur une trajectoire de 4 à 6 degrés à la fin du siècle, ce qui n'est pas du tout souhaitable, ce qui va être une catastrophe. Donc, et pour vous donner une idée sur qu'est-ce que c'est qu'un écart de 5 degrés. Là, on dit on est à 1 degré. Si on arrive à 5 degrés, mettons, à la fin du siècle. 5 degrés, c'est l'écart de température entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires sur la Terre. Hein, parce que les climato-sceptiques se plaisent à nous dire « Oui, mais les variations du climat, il y en a toujours eu, etc. » C'est vrai. Mais sauf que là, en 150 ans, la température de la Terre a augmenté de 1 degré. Or, les variations, elles se font sur des dizaines de milliers d'années. Des variations de 5 degrés se font sur des dizaines de milliers d'années. Donc la rapidité de la variation, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe habituellement. Et donc la dernière glaciation, elle a pris fin il y a 10 000 ans. Et ça a mis entre... elle a commencé il y a 110 000 ans, elle s'est terminée il y a 10 000 ans, et il y a une variation sur cette période-là de 5 degrés. Et donc il faut se figurer que la Terre ne ressemblait pas... les continents ne ressemblaient pas du tout à ce à quoi ils ressemblent d'habitude, enfin maintenant, je veux dire, parce qu'au niveau de l'Europe, il y avait la toundra sibérienne, hein, il faisait plus froid. La Manche était glacée, on pouvait traverser à pied entre la France et l'Angleterre. Il y avait donc des calottes glaciaires de 2 km en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Donc vous voyez que le changement est énorme. Sauf que là, bon, c'est l'inverse, c'est un réchauffement, c'est pas un refroidissement, mais c'est la rapidité du phénomène qui est inédit. On parle beaucoup de justice climatique. La justice climatique, c'est un concept qui est nécessaire parce que ce sont les pays qui ont déclenché le dérèglement climatique de par leur mode de vie, de confort, de développement, de ce qu'on a appelé le progrès, qui ont déclenché le dérèglement climatique. Et ce sont les pays du Sud qui n'ont pas participé à cette course-là, qui sont les premiers impactés. Et donc, on a une dette morale, on a un devoir de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui est beaucoup plus important, et on a un devoir d'aider les pays qui sont impactés de par nos modes de vie et ceux de nos ancêtres, parce que c'est notre modèle de consommation qui est faux et qui nous a amenés dans cette situation qui est très délicate. Donc la justice climatique, c'est à la fois la justice sociale et à la fois la justice environnementale. Et donc la bataille du climat, c'est une bataille qui n'est pas réversible. Elle se joue qu'une seule fois. On ne va pas pouvoir revenir en arrière. Parce qu'il y a des seuils d'emballement climatique qui, lorsqu'ils sont atteints, ne sont pas arrêtables. Je parlais tout à l'heure du permafrost. Le problème du dégel du permafrost, c'est que les sols qui étaient auparavant gelés libèrent du méthane. Donc, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est puissant, qui vient alimenter le réchauffement climatique, qui vient réchauffer la Terre, qui dégèle une plus grosse partie du permafrost, etc. C'est une des boucles. Après, il y en a plein. Je ne vais pas les détailler là parce que ça serait trop long. Donc, elle est irréversible, elle se joue maintenant, parce que c'est maintenant et dans les prochaines décennies que l'aggravation, que le réchauffement climatique va continuer. Le dernier rapport du GIEC qui est sorti en 2018 avait trois phrases en résumé. Chaque action compte, chaque jour compte et chaque dixième de degré compte. Donc ça, c'est vraiment le credo maintenant qui est rabâché par les scientifiques, aussi par les militants climat, etc. Et donc on est face à une situation à laquelle nos ancêtres n'ont pas eu affaire. On n'a pas vraiment décidé de naître à ce moment de l'histoire de l'humanité. Moi, quand j'étais petite, je me demandais quand est-ce que ça se finirait, l'histoire de l'humanité. Et en fait, je ne pensais jamais être à un moment où, en fait, on a un tel pouvoir, parce qu'on a encore des leviers d'action qui permettent d'enrayer le dérèglement climatique. Et bien sûr, c'est très compliqué, mais ce n'est pas du tout infaisable. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'exposé. C'est qu'on a des choses à faire et c'est maintenant qu'il faut les faire. Si on regarde, quel monde est-ce qu'on veut avoir ? C'est déjà de savoir de quel système on parle. Parce qu'on dit « changeons le système, pas le climat ». C'est quel est le système qui génère à la fois le dérèglement climatique, mais on voit que c'est le même qui génère les inégalités et les injustices. Donc c'est un système économique capitaliste qui est basé sur l'extraction des ressources naturelles de la Terre sans limitation, alors que la planète est finie et donc on ne peut pas... Le 22 août, c'était le jour... On est le combien ? Je ne sais pas combien on est. Ah voilà, bah, le 22 août, dans trois jours... On aura atteint le jour du dépassement, qui est le jour pendant lequel la Terre, enfin les habitants de la Terre ont utilisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut recycler en un an. Donc on vit à crédit, on contracte une dette envers les générations futures tous les jours à partir du 22 août. Et donc, face à ça, c'est important d'avoir un nouveau modèle de société à proposer. Il y a donc les Amis de la Terre, qui organisent aussi ces camps climat, ont écrit un livret qui s'appelle « Les sociétés soutenables ». Donc ils appellent ça... Ils ont défini un espèce d'espace écologique, donc avec un plancher, c'est-à-dire que des personnes ne devraient pas vivre en dessous d'un certain confort et d'un certain revenu économique, et un plafond, au-delà duquel on ne devrait pas avoir autant de richesses. Et donc, il y a un espace vivable pour tous les habitants de la Terre qui serait délimité. Dans l'objectif de réduire les inégalités et de construire une planète soutenable, donc c'est-à-dire en arrêtant d'émettre autant de gaz à effet de serre. Mais ça signifie de repenser notre rapport au travail, de repenser notre rapport au temps, et de s'attaquer aux rouages du système, de s'attaquer à la finance via les acteurs publics, les acteurs privés, de s'attaquer à tout ce qui est relation entre pouvoirs multinationales, etc., qui entretient ce système et qui n'a pas intérêt à ce que le système tombe. Et donc, quels sont les freins ? Les freins, c'est quoi ? On a un système qui... est basée sur la domination des hommes sur la nature. On s'est extrait complètement, on a extrait l'humanité de l'écosystème. Et cette extraction-là, elle a fait qu'on devient, on devient un peu incontrôlable puisqu'on ne tient pas compte de l'écosystème. Et à l'intérieur même de l'humanité, on a des systèmes de domination, des hommes sur les femmes, des hommes sur des autres, des hommes sur des peuples, etc. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. On a un socle de sciences qui sont basées sur cette domination et qu'il faut remettre en question. On a en fait énormément de choses qu'on a apprises à l'école. qu'on nous a inculquées dans notre société à remettre en question pour trouver des autres lunettes, pour trouver la manière de construire une autre société. Le système donc, tient aussi sur forcément la consommation. Et on a une culture consumériste qui est entretenue par la publicité, etc., etc., qui fait aussi un lien avec la crise du sens. Quel sens on nous vit ? On a une société qui est malade de maladies, de métastases un peu partout, on va dire. Et c'est à tout ça qu'on doit s'attaquer. On ne peut pas juste s'attaquer à un aspect, c'est à tous les aspects. On veut une société qui n'est pas raciste, on veut une société qui est égalitaire. On veut redonner le pouvoir aussi aux femmes, parce que, comme je disais tout à l'heure, elles ont aussi des solutions et des voix à porter qui actuellement qu'elles ne peuvent pas porter actuellement. Donc c'est une société aussi féministe, inclusive, qu'on veut défendre. Et ça c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que la plus grande force du système, c'est qu'il a fait de chacun et chacune d'entre nous sa complice. Parce que c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, même si on veut vivre en dehors du système, on est confronté de toutes parts à plein de limitations parce que c'est pas fait pour. Donc, on est à la fois victime et à la fois complice. Donc, c'est ça qui rend la chose très difficile. Et le système tient par la coopération des masses, qui est soit voulue, soit complètement inconsciente, on va dire. Si on repart là des émissions de gaz à effet de serre, pour les limiter, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on doit laisser les énergies fossiles dans le sol. Et donc ça, c'est un problème pareil qui est très simple. On a la solution pour limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Déjà, si on laisse les énergies fossiles dans le sol, on va bien stopper la machine, quoi. Mais c'est aussi très complexe parce que si on regarde là même, nous, tout ce qu'on porte, nos vêtements, ces chaises, la sono, tout ça c'est fait avec du pétrole, nos lunettes, machin. Et donc ça veut dire qu'on doit repenser toute la façon dont on vit, et ça impacte tous les secteurs, que ce soit les bâtiments, que ce soit notre agriculture, la façon dont on se déplace. Tous les secteurs sont impactés, la façon dont on gère nos déchets aussi. Et donc, ça remet en cause notre confort moderne qui repose justement sur la puissance des énergies fossiles. Ça, j'ai déjà dit. Après, ce qui est bien, c'est que les alternatives pour changer notre manière de vivre, elles existent déjà. Et elles existent partout, sur tous les territoires. C'est-à-dire qu'on sait déjà comment manger différemment en ayant un impact minimum sur la planète. On sait déjà comment se déplacer différemment, comment consommer différemment, et beaucoup moins consommer d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'étude de Negawatt. Ce sont des ingénieurs qui ont fait une étude pour montrer comment on pouvait se passer du nucléaire et des énergies fossiles d'ici à 2050 en France. Et donc, ils basent leur diagnostic sur un triptyque qui est sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Donc, la première chose à faire, c'est la sobriété. C'est revoir ce qu'on consomme. Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on n'en a pas besoin ? Et dans quelle mesure on peut réduire nos consommations ? La deuxième chose, c'est donc l'efficacité. L'efficacité, et donc juste la sobriété, en gros, c'est vraiment un choix de société, un choix de on repense complètement comment on vit et on fait autrement. L'efficacité, on peut l'illustrer avec la précarité énergétique. Ah, mes feuilles sont bonnes, merci. La précarité énergétique. Donc 12 millions de personnes en France vivent dans des passoires énergétiques. Donc ça veut dire elles ne peuvent pas chauffer leur logement pour avoir une température qui est confortable, qui permet de ne pas tomber malade, etc. Parce que les bâtiments ne sont pas du tout isolés et leur budget est beaucoup trop faible pour envisager une rénovation ou pour payer les factures d'électricité. Et donc l'efficacité énergétique, ça serait de rénover massivement tous les logements pour que ces personnes puissent avoir des logements qui sont beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on a un impact écologique direct, mais aussi un impact social, parce que toutes ces le fait de vivre dans une passoire énergétique, d'avoir froid l'hiver, de tomber malade, etc., eh bien ça entraîne des problèmes sociaux énormes. Donc la précarité énergétique et donc l'efficacité énergétique, c'est un enjeu qui est à la fois écologique et à la fois social. Et c'est ça qu'on remarque sur les alternatives, c'est que toutes celles que nous, on trouve bonnes, on trouve que ce sont des bonnes solutions, c'est celles qui ont à la fois un impact écologique, mais qui améliorent aussi la vie quotidienne des personnes en termes de justice sociale. Et donc, on sait aussi comment changer le modèle agricole. Aujourd'hui, on a un modèle agricole qui, toutes les aides de la politique agricole commune, elles vont quasiment aux grosses exploitations, donc qui utilisent des pesticides, qui ont des champs en monoculture, qui détruisent la biodiversité. Et on a un modèle d'agriculture paysanne qui est défendu par la Confédération paysanne, donc le syndicat autre que la FNSEA, et qui permettrait de réassurer notre sécurité alimentaire avec la multiplication de petites parcelles, de replanter des bosquets, de faire revenir la biodiversité. Mais ça, pour faire ça, on a besoin d'agriculteurs et d'agricultrices en masse. On a besoin de 1 million d'emplois agricoles en plus, donc avec des personnes qui sont prêtes à aller dans les champs, à travailler avec leurs mains, etc. Et ça, on n'est pas en train de le faire dans la société. On n'est pas en train d'inciter les jeunes à aller dans les champs. On n'est pas en train d'inciter les personnes à se reconvertir pour faire ça. Et de toute façon, pour l'instant, le système n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas assez d'aide pour que les personnes puissent le faire. En tout cas, d'aide financière et de fléchage financier. Donc, il y a ces alternatives, elles existent, mais elles ne peuvent pour l'instant pas passer à l'échelle supérieure parce qu'il n'y a pas les mécanismes qui sont mis en place. Même s'il y a beaucoup de personnes qui bataillent de plus en plus. Et donc, c'est pour illustrer aussi le fait qu'on a dans nos têtes, on doit revaloriser les métiers. Ça veut dire qu'en ce moment, en France, le métier d'agriculteur, enfin, on est complètement déconnecté de la façon dont sont fabriqués nos aliments. Et les agriculteurs n'ont pas une reconnaissance énorme. Et donc, c'est tout un changement de vision qu'on a à faire dans la société pour reconnaître des métiers qui sont vitaux, comme le fait de cultiver des terres, de faire du pain, etc. etc. Une des alternatives importantes aussi, c'est la réduction de la consommation de viande et de produits laitiers. Il y a une énorme... Si vous voulez avoir un ordre d'idée du changement qu'il faudrait, des mesures qu'il faudrait mettre en place en France dans tous les secteurs, vous pouvez lire sur Internet le rapport BNL Évolution, qui s'appelle « Comment la France doit s'aligner sur une trajectoire de 1,5 degré ». C'est B et en cyrillique là, et L, Évolution. Et en fait, dans ce rapport-là, ils disent qu'en ce moment, on a une moyenne de 90 kg de viande consommée par personne chaque année et qu'on devrait arriver à 25 kg. Donc, c'est une réduction globale de nos consommations carnées et de produits laitiers. Des alternatives aussi au niveau de la mobilité. Donc, en France, accrochez-vous bien. Si on regarde les trajets dans les agglomérations, 25% des trajets de voiture font moins de 3 km. C'est énorme.
Et 60% moins de 5.
Et 60% moins de 5. Voilà. Donc vous imaginez en vélo le temps que ça prend pour faire 3 km ou 5 km. Donc ça veut dire qu'on a une énorme marge de manœuvre. Ça implique de repenser nos manières aussi d'aménager le territoire. Parce que si j'ai une piste cyclable tout le long qui me sécurise, je vais avoir beaucoup plus envie de faire du vélo et beaucoup moins peur de me faire renverser. Et donc, je vais beaucoup plus prendre mon vélo que si on construit à côté de chez mes parents, là, dans les Vosges. Ils ont refait une énorme route qui relie deux villages et il n'y a pas de piste cyclable. C'est pas possible. Donc on a vraiment une démarche de manœuvre importante et en imaginant qu'est-ce que ça ferait d'avoir justement un réaménagement des centres-villes avec beaucoup moins de voitures. Donc cette fameuse étude dit que on devrait arrêter, il préconise une interdiction de la circulation des véhicules thermiques en centre-ville en 2024. Donc ça veut dire qu'on repense les systèmes de transport, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire en fait on arrête tout, c'est pas possible. Donc là c'est amorcer très très vite une transition pour être capable pour que les gens ne soient pas coincés. Ça veut dire repenser le travail, faire plus de télétravail, relocaliser l'économie, relocaliser les emplois pour habiter plus près de là où on travaille et avoir besoin de faire moins de kilomètres. C'est aussi une revalorisation des métiers du soin qui font tenir la société. Et on l'a bien vu avec le Covid, c'est revenir aux besoins fondamentaux de la société et de quel métier est utile et de quel métier aggrave le dérèglement climatique. C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Donc c'est tout un changement de paradigme qu'on a besoin d'aborder avec une reconversion industrielle, le réaménagement de nos territoires et une relocalisation de l'économie. Et donc, dans ce credo qu'on a de « changeons le système, pas le climat », on a donc cet impératif de la justice sociale. On peut dire un peu que le climat, c'est la nouvelle lutte des classes. Pourquoi ? Parce qu'on l'a entendu, fin du monde, fin du mois, même combat. Ça, c'est les Gilets jaunes qui ont popularisé ce slogan, alors que c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est ce que le mouvement climat dit depuis le début. Et après, et donc pendant les Gilets jaunes, ça a commencé par le refus d'une taxe carbone qui a été mise en place par un gouvernement qui n'a pas pensé à mettre en place les aides sociales qui étaient nécessaires pour que cette taxe carbone soit acceptable. Parce que ce ne sont pas aux ménages les plus précaires de porter le poids des mesures écologiques qu'il y a à mettre en place. Donc les mesures doivent toujours être assorties d'une aide ou doivent être pensées de manière à ce que ce ne soient pas les plus précaires qui payent le prix fort. Et donc parce que tout le monde n'est pas impacté de la même manière et que, encore une fois, ce sont les plus pauvres et les plus précaires qui sont en première ligne. Et donc les Gilets jaunes, ils ont permis ce travail pédagogique de dire mais en fait, nous... pour nous, le climat, c'est une transition écologique et sociale, et les deux sont indissociables. Et donc, quand il y a des journalistes qui demandaient « Ah bon, mais vous pensez pas que ça s'oppose, écologie, sociale et tout ?» Je dis « Mais non, mais en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. » Sauf que, évidemment, de toute façon, ça fait depuis les années 70 que des personnes se battent pour ça. On avance au fur et à mesure de l'évolution de la conscientisation des personnes. Et là, on a fait un bond en avant. Et c'est important de saisir toutes les opportunités de faire passer nos messages. Et les discussions qu'on a eues avec les Gilets jaunes sur les ronds-points, parce qu'il y a énormément de groupes d'Alternativa qui ont fait des actions avec les Gilets jaunes, et ben, elles permettent aussi d'avancer ensemble vers un modèle de société globale. Et donc, je parlais tout à l'heure des alternatives qui, pour nous, sont des alternatives. Parce qu'il y en a qui, pour nous, sont des fausses solutions. Les fausses solutions, ce sont les OGM, ce sont le nucléaire, en raison de la dangerosité de cette énergie. C'est la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est par exemple l'idée géniale de Paul Kurtzer, qui est prix Nobel de chimie, quand même, qui a dit qu'on pourrait envoyer dans l'espace, dans la stratosphère, des particules de sulfate, comme ça ferait de l'ombre et on pourrait avoir cette solution là. Donc ça, ce sont toutes les propositions d'apprentis sorciers qui réaffirment l'arrogance humaine supérieure à la nature pour se dire on va pas changer de mode de vie mais on va trouver des autres solutions parce qu'au niveau technique on est trop fort. Voilà, donc ça pour nous c'est pas des solutions. Et dans les scénarios du GIEC, il y a différentes simulations en fonction de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour arriver à 1,5 degré, donc c'est très, 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 très short, là, on va dire. Et il y a des méthodes qui sont de recaptation du carbone. On reprend le carbone, on le met dans la terre. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on ne compte pas parce qu'on ne sait pas bien faire, c'est pas bien développé et surtout, ça ne va pas solutionner le problème. Nous, c'est à la racine du problème qu'on veut œuvrer. On ne veut pas mettre des pansements les uns sur les autres. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a une bataille culturelle à mener, qu'on n'a pas un défi technique à relever, c'est plutôt un défi organisationnel et un défi structurel. Et on a un gros enjeu donc, d'atténuation et d'adaptation des territoires au dérèglement climatique, mais qui vont être relevés par les mêmes alternatives qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qu'on appelle la métamorphose des territoires. C'est agir au local pour un effet global, et c'est aussi agir au global, enfin en tout cas au niveau national, parce que en gros, on a des leviers d'action à tous les niveaux. Au niveau local, on commence à ancrer les alternatives sur le territoire, à se défendre contre des projets qui vont aggraver le dérèglement climatique. Mais si on peut avoir un impact sur la mise en place d'une piste cyclable là, sur cette route-là, on ne va pas avoir un impact sur les décisions que le gouvernement doit prendre pour relier avec des nouvelles voies ferrées, avec des transports en commun beaucoup plus fournis qui nous permettraient de ne pas prendre nos voitures, et enfin qui nous donneraient les moyens en fait de ne pas prendre nos voitures. Ça, c'est au niveau national que c'est décidé. Il y a aussi des décisions au niveau européen qui ont un impact sur la France et où la France a dans lesquelles la France a une influence. Donc, c'est des actions à plusieurs niveaux, mais qui commencent par ce qu'on appelle la métamorphose des territoires sur le fait de commencer par mobiliser des personnes et arriver à un projet global de vie de chaque territoire. Et ça s'adapte à la culture, ça s'adapte à la géographie du territoire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes d'eau, par exemple, les mêmes problèmes d'aménagement de base, en fonction du mal qui a déjà été fait sur... on a beaucoup vidé les centres-villes de leur vie. Hein. Avant, on avait plein de commerces, maintenant, on a des centres commerciaux, etc. Donc, c'est plus ou moins le cas en fonction des territoires. Et donc, comment est-ce qu'on fait concrètement pour arriver à changer le système et pas le climat. Les camps climat, ils sont organisés par Alternatiba, par Action Environnement COP21 et par les Amis de la Terre. Donc Alternatiba, c'est un mouvement qui est né en 2013 à Bayonne et il est né en se disant on parle du climat à chaque fois avec l'angle catastrophique. Nous, on va parler du climat en montrant qu'il y a des alternatives qui existent, qu'on peut déjà vivre différemment, mais qu'on ne connaît pas ces alternatives parce que ça passe pas à la pub, à la télé, etc. Et donc, on va faire venir sur l'espace public toutes ces personnes qui vont pouvoir expliquer, ce qu'elles proposent, une AMAP, un atelier de réparation de vélo, de réparation d'un repair café, etc. Et on va provoquer des échanges. Et en construisant cet événement, on va créer une émulation de groupe. Et on va parler du climat. Et donc les gens qui arrivent au début sont là, bah oui, moi je cultive des super tomates, moi j'aime bien chanter, parce que c'est très festif, très joyeux, etc. Et en fait, tout au long de la préparation et de la construction de l'événement, il y a ce message du climat et de l'urgence climatique qui arrive. Et ça fait prendre conscience aussi à beaucoup de personnes qui au début arrivent comme ça parce qu'elles aiment bien faire du vélo ou qu'elles sont dans une asso, de prendre conscience de l'urgence climatique. Et donc ça permet de visibiliser en fait ce qui est possible de faire. Donc ça c'est Alternatiba. ANV COP21 a été créé en 2015, donc c'était l'année de la COP21. On faisait un tour Alternatiba, donc avec des vélos 3 ou 4 places en France et dans les pays limitrophes au niveau de l'Europe. Et on a diffusé tout le long du tour un appel à entrer en désobéissance civile en amont, pendant et après la COP21 pour demander, pour presser les dirigeants de signer un accord ambitieux et contraignant pendant la COP21. Donc, depuis, on a fait énormément d'actions de désobéissance civile. On a formé, je France, plus de 10 000 personnes à la désobéissance civile, si on fait le compte de tout ce qu'on a fait comme formation. Et les Amis de la Terre, c'est une fédération internationale, donc qui est beaucoup plus vieille, qui a, je crois, 40 ans. J'hésite entre 40 et 50. Voilà. Non, c'est pas plus, c'est 40 ou 50, et ils fêtent ça cette année, mais du coup, je ne sais plus exactement. Et donc, eux, sont, donc c'est une autre dimension, mais on travaille beaucoup avec eux parce qu'ils ont, ils appliquent la même stratégie que nous. Et donc, Alternatiba et ANV21, ce sont des parties, font partie du mouvement climat et ont pour objectif de contribuer à la formation d'un mouvement de masse non violent pour le climat et la justice sociale. Et toutes les actions que nous imaginons, que nous réalisons, elles sont pensées selon une stratégie de lutte non violente. Et la stratégie de lutte non violente, c'est en gros, l'objectif, c'est, enfin, elle se base sur le fait que justement le système, il tient par la coopération de la masse. Et l'objectif, c'est d'entraîner un mouvement de non-coopération au système, donc qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se retirent du soutien du système. C'est à la fois dans la résistance aux projets qui continuent d'aggraver le dérèglement climatique, qui continuent de ne pas respecter les droits humains, qui créent des injustices, et à la fois développer un autre projet de société avec un programme constructif. Gandhi disait, appelait ça le programme constructif, pour ne pas juste dire non, mais dire en fait on a une autre proposition. Et donc concrètement, la transformation, ça serait maintenant de faire changer d'échelle les alternatives. On a déjà, je ne sais pas, qui connaît Enercop ? Ouais, donc Enercop, c'est une SCOP, une coopérative, voilà, qui distribue de l'énergie renouvelable, donc c'est une alternative à EDF, et donc on met notre argent pour le développement des énergies renouvelables quand on souscrit à Enercop. Énergie partagée, c'est une, je crois que c'est aussi une coopérative qui, en fait, c'est qui soutient des projets citoyens d'énergie, donc que ce soit des parcs photovoltaïques, des éoliennes, etc. Et là, c'est l'enjeu de la démocratie, de la gouvernance. Parce que c'est bien de développer les énergies renouvelables, mais si on crée un nouveau modèle avec des champs de panneaux photovoltaïques qui sont gérés par Total, c'est pas ça qu'on veut comme monde. Nous, on veut que les citoyens reprennent le contrôle de leur énergie, etc. Et donc, il y a énormément de projets citoyens qui sont financés par les mairies, qui voient le jour et qui sont aidés par énergie partagée. Donc ça, c'est un potentiel de changement d'échelle de la manière de fabriquer notre énergie et de la gérer. Les AMAP aussi, donc c'est un énorme réseau dans toute la France, et souvent dans les AMAP, il y a des prix solidaires qui s'appliquent. C'est-à-dire que les personnes qui ont des revenus plus élevés payent un peu plus cher leur panier pour que des familles qui sont plus en difficulté puissent avoir accès à des légumes qui sont sans pesticides. La NEF, qui est une banque qui se sert de l'argent qu'on lui confie pour financer des projets, pareil, des projets qui sont soutenables et qui sont justes socialement. Enfin, il y a plein de critères. Et Terre de Liens aussi, qui aide des agriculteurs et des agricultrices à s'installer en leur prêtant des terres ou en leur louant à très, très, très bas prix. Et donc, c'est pareil, c'est c'est un prêt d'argent, mais qui sur un long terme, mais qui va servir à des projets qu'on connaît et qui servent à changer le modèle agricole. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres, mais en fait, il y a déjà des alternatives qui pourraient changer d'échelle s'il y avait de plus en plus de personnes qui se mettaient dedans. Et donc, Alternatiba, beaucoup de groupes Alternatiba les mettent en valeur et sont un peu les porte-voix aussi de ça. Ensuite, l'importance des villages des alternatives, comme je le disais tout à l'heure, c'est c'est cette sensibilisation et de les rendre accessibles. Il y a aussi d'autres manières. Il y a une plateforme qui s'appelle le Transiscope qui donc, est sur Internet et qui répertorie. En ce moment, il y a plus de 25 000 alternatives qui sont répertoriées dans toute la France. Pendant le confinement, ou juste à la sortie du confinement, on a publié un recueil qui s'appelle « Et si ?» qui a été écrit par une soixantaine d'artistes et de personnalités qui permettent d'imaginer le monde de demain, qui est assez poétique. Et c'est parce que c'est important aussi de faire appel à un imaginaire, de se dire que et de montrer que les alternatives, en fait, même s'il n'y avait pas le dérèglement climatique, ça serait bien de les adopter parce que ça nous amène à un mode de vie qui est plus solidaire, qui fait place à la coopération à la place de la compétition et au bien-être plutôt qu'au profit financier. On a une campagne qui s'appelle Alternative Territoriale qui a été lancée il y a 2 ans ou 3, 2 ans et demi parce que les agglomérations et les communautés d'agglomération devaient rendre ce que qui s'appelle un plan climat, donc un plan climat air énergie territoire, et qui est une feuille de route qui explique comment le territoire va réduire ses émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au dérèglement climatique. Et donc ça veut dire que ça permet de penser à de quoi va avoir l'air le territoire dans les prochaines années et qu'est-ce qui va être fait à ce niveau. Et donc il y a une cinquantaine de groupes qui se sont constitués en alternatives territoriales et qui ont fait et font toujours du plaidoyer auprès des élus pour influencer sur les plans climat, sur leur mise en place et pour pousser des mesures qui ne sont pas forcément dedans. Et ça, l'objectif, c'est bien sûr à la fois de créer une discussion avec des élus, mais qui n'est pas toujours possible, mais c'est surtout de mobiliser des acteurs sur le territoire et des actrices sur le territoire qui ont une expertise dans la gestion de l'eau, dans l'architecture urbaine, etc., etc., et de ramener vraiment une expertise dans le noyau de l'action et de fédérer de plus en plus de personnes pour avoir des véritables projets de territoire à défendre et à proposer qu'après on peut mettre en œuvre, en tout cas qu'on peut pousser à travers différentes actions. Et ce qui est important dans le mouvement qu'on est en train de construire, c'est qu'on s'appuie, on dit qu'on marche sur 2 jambes, la jambe des alternatives et la jambe de la résistance. Et donc, le changement d'échelle des alternatives, il est fondamental, mais il prend beaucoup de temps. Et on ne peut pas laisser s'aggraver le dérèglement climatique, parce que si on avait un siècle, on pourrait se dire, bah voilà, dans un siècle, c'est bon, on aura le temps de faire changer les mentalités et tout, mais là, en fait, le changement doit être tellement rapide que on devrait le faire maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de résister, de s'opposer et de ne plus coopérer aux projets qui continuent d'aggraver le dérèglement climatique. Et ça, on le fait en articulant différentes actions, différents types, différents moyens d'action non violents qui vont des actions légales, hein, ça peut être des pétitions, je sais pas, qu'est-ce que vous connaissez comme moyen d'action, par exemple ? Des blocages. Pétitions, manifestations.
La non-consommation.
Non-consommation. Voilà, occupation, grève. Donc, comment ?
Boycott qui est interdit en France, l'appel au
boycott, tout à fait. Donc, il y a à la fois des actions légales et à la fois des actions illégales. Les actions illégales, c'est donc de la désobéissance civile. Parce que, on passe en désobéissance civile quand on veut dénoncer une situation. Ou alors, on ne respecte pas une loi parce qu'elle nous paraît injuste. Et donc, la désobéissance civile, c'est on fait une action parce qu'à nos yeux, elle est légitime, même si elle est illégale. Parce que la légalité ne veut pas dire la légitimité. Parce qu'une loi qui entraîne le non-respect des droits humains, par exemple, eh ben, c'est une loi qui n'est pas acceptable. Et que nous, en tant que citoyens et citoyennes, on ne peut pas cautionner. On estime qu'on a un devoir de citoyens et citoyennes à ne pas respecter une loi qui entraînerait un impact néfaste pour l'intérêt général ou pour des minorités, etc. etc. Donc, la désobéissance civile et l'articulation des différentes actions, parce que c'est ça, en fait, une stratégie de lutte non violente, c'est on se donne un objectif et on réfléchit à comment on va y arriver. Par exemple, en 2014, les Amis de la Terre et BC, c'est une association basque qui a donné naissance à Alternativa, se sont donné comme objectif donc en lien avec la communauté internationale, de bloquer un projet de mine de charbon géante qui devait être ouverte en Australie. Et donc, ils regardent quels sont les acteurs de ce projet, etc. Et là, on voit, il y a la Société Générale, une grande banque française, qui est dans ce projet. Donc, ils ont commencé à réfléchir à comment faire pour que la Société Générale se retire du projet. Et donc, elle n'était même pas seulement dans le projet, elle était elle donnait pas seulement de l'argent, elle conseillait et tout, donc elle avait un énorme rôle dans ce projet. Et donc, à Bayonne, ils ont commencé à amener une lettre au directeur habillé en kangourou pour leur dire, bah voilà, nous, avec nos petits t-shirts verts, en fait, on voudrait que la banque se retire du projet Alpha Call parce que les mines de charbon, c'est pas bon pour le climat et c'est pas bon pour vos enfants. Donc au début, forcément, ils rigolent parce qu'on a 4 t-shirts verts et 2 kangourous parce que c'est en Australie. Mais en articulant différents types d'actions non violentes, donc qui étaient, on fait une conférence de presse dans l'agence de la Société Générale, on fait une campagne de tractage dans les rues, et là les gens commencent à être au courant de ce projet, que la Société Générale est dans ce projet. Et les employés aussi ne savaient même pas que la banque était dans un tel projet. On fait une campagne où les gens se filment en disant « moi je change de banque parce que la Société Générale, elle est dans un projet qui aggrave le dérèglement climatique et je veux pas que mon argent serve à ça ». Donc toutes ces actions différentes qui sont combinées à l'agenda politique et climatique international, puisque les dernières actions qui ont eu lieu, c'était des actions c'était le jeûne pour le climat, donc le 1er décembre 2014, ou un jeûne international pour le climat. Donc les gens sont arrivés, les activistes sont arrivés dans l'agence avec leur tapis de yoga et leur bouteille d'eau en disant bah, « nous, on fait le jeûne pour le climat ici dans l'agence ». Sauf qu'en même temps, à l'autre bout du monde, à Lima, il y avait la COP 14, qui commençait. Et là, au bout de 5 heures dans l'agence, il est 8 heures à Lima, ou je ne sais pas combien c'est le décalage, 5 ou 6 heures. Et là, tout le monde se met à tweeter au niveau de la COP qu'il y a des activistes dans la Société Générale. Et dans une petite agence de Bayonne. Et là, la banque prend peur. Et on lui avait dit, bah, de toute façon, si tu ne te retires pas, nous, l'année prochaine, pendant la COP 21 à Paris, on va faire une marche entre 21 et une agence de la Société Générale en plein milieu de la COP 21 pour dire que la Société Générale, c'est vraiment la pire banque au niveau du climat à cause de ce projet de Alpha Call. Et donc, une semaine après, la banque appelle BC en disant « arrêtez vos actions, on se retire du projet ». Et ça, c'est le résultat à la fois donc, d'un bon agencement des différentes actions, qui ne sont pas forcément toutes de la désobéissance civile, et de l'agenda politique. Et on voit que la stratégie de lutte non violente, comme ça, elle s'applique sur deux forces. La force de persuasion et la force de contrainte. Parce que juste pour la petite histoire, à la fin de... il y a eu plusieurs interactions avec le directeur de la banque, et la première était très froide, parce que forcément, il n'était pas content de recevoir une lettre comme ça, il disait mais nous, on trie des déchets sur la plage, on finance ça, etc., on fait des trucs pour le climat. Et après, il a redemandé un rendez-vous, et le rendez-vous s'est transformé en cours sur le dérèglement climatique. Il prenait des notes pendant que les activistes lui expliquaient pourquoi il faisait ça. Et donc, on a fait passer une personne, ce directeur de notre côté, et les employés, au sein des employés, ce projet était devenu vraiment impopulaire. Donc, il y a eu plusieurs pressions qui ont été exercées parce que les gens étaient persuadés que ce projet était mauvais. Mais en même temps, ça ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas juste compter là-dessus pour gagner. La contrainte, c'est ça, c'est on va attaquer ton image sur la scène publique internationale, et donc ce mélange de contraintes et de persuasion a fait que l'objectif a été atteint. Donc ce qui est important dans ces actions-là, c'est qu'il y a différents niveaux de confrontation. Hein, quand on fait des actions, on peut avoir différents risques physiques. Donc si on est confronté à des forces de l'ordre, à des forces de sécurité, donc ça dépend de la répression à laquelle on fait face. Et juridique aussi, puisque il peut y avoir des procès. Hein, là, il y a 71 personnes qui sont en procès, dans une trentaine de procès, pour avoir décroché les portraits d'Emmanuel Macron. Donc il faut être préparé aussi à ça. Mais ces procès, quand on a à y faire face, on les transforme en tribune politique. En septembre dernier, deux personnes qui ont décroché des portraits ont été relaxées par un juge à Lyon pour état de nécessité. C'était quasiment ingagnable. Enfin, inespéré. C'est ce qu'on espère, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire que c'est impossible, parce qu'on a réussi à le faire et qu'un juge a jugé que nos actions palliaient au dialogue impraticable entre le président de la République et les citoyens, et qu'au vu des preuves fournies, des manquements de la France à tout faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à respecter l'accord de Paris, eh bien, l'action était légitime. Donc ça, c'est une énorme victoire politique. Donc les procès peuvent aussi servir à ça. Et donc, pour arriver à ça, on a établi des critères d'action qui sont les critères de l'action non violente, parce que notre objectif, c'est que l'action, quand on la regarde, on voit une photo, on comprend tout de suite qui est légitime et qui n'est pas légitime dans cette action. Et c'est ça la grande force. Et par exemple, on a bloqué un sommet pétrolier en 2016 à Pau. Donc 4 mois après la COP21, on a appris que le Total organisait une réunion avec des pétroliers dans un grand château et on a eu les invitations. Et donc dans le programme, on ne parlait pas de l'accord de Paris qui venait d'être signé, alors que les entreprises avaient toutes fait un vœu pieux de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'objectif, c'était de réfléchir à comment optimiser l'exploitation d'hydrocarbures en eau profonde et ultra profonde. Donc nous, on a dit, en fait, on annonce qu'on va bloquer ce sommet si l'agenda n'est pas revu et s'ils ne discutent pas de la reconversion des emplois lors de ce meeting. Et pendant 3 jours, on a fait un camp pendant une semaine, et pendant 3 jours, les 3 jours de la conférence, du début jusqu'à la fin, un millier de personnes se sont succédées et ont été devant le palais à bloquer les entrées. Le premier jour, les conférenciers ont dû enjamber des personnes pour rentrer à l'intérieur. Le dernier jour, ils sont rentrés par le parking. Et on a créé une situation d'anormalité. Donc le fait de dire, en fait, ce n'est plus normal. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter la vie d'avant. Ce qui me paraissait normal avant ne l'est plus au regard de l'accord de Paris. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que sur les photos, on voit des militants non violents qui ont les paumes levées, qui se font gazer par les CRS, les CRS qui défendent un château dans lequel il y a des pétroliers qui sont réunis. Donc cette photo-là, elle est puissante, parce que, évidemment, nous, on est dans l'illégalité, on n'a pas le droit de rentrer dans le parc du château pour essayer de rentrer dedans. Mais en fait, on est dans la légitimité, parce que l'accord de Paris vient d'être signé. Et c'est ça qu'on veut renvoyer en faisant les actions violentes, et c'est à ça qu'on pense à chaque fois qu'on fait une action. Donc, on commence par poser un conflit. Et le conflit, c'est l'ultimatum à Total, change ton agenda, sinon on va venir bloquer ton sommet. C'est la lettre au directeur en disant, retire la Société Générale, sinon on va pourrir ton image. Et après, c'est on aborde ce conflit dans le respect des personnes. On parle pas à un employé, on parle aux humains, quoi. On parle pas à un policier, on parle à un humain. Et c'est donc pour qu'on agisse tous et toutes dans le respect de règles qui sont définies, on a établi les critères d'action et donc on fait nos actions à visage découvert, en les assumant. On ne répond pas à la violence par la violence, on a un objectif de désescalade de la violence pour arriver à garder cette image de l'action et ce respect des personnes et d'utiliser la force de persuasion qui est une des forces de l'action non violente. Donc on a diverses... on a bloqué la défense aussi pour dénoncer la République des pollueurs l'année dernière, non, il y a deux ans. On a donc dans l'année dernière, pardon, et donc on a plein de registres d'actions différents qui sont à la fois des blocages qui peuvent être un peu musclés, enfin ça dépend si on est en première ligne ou pas, ou ça peut être, on a fait beaucoup d'actions dans les banques, on avait une campagne Nettoyons Société Générale, où on s'est retrouvé devant le siège de la Société Générale avec des Bob l'éponge à Paris en disant « Société Générale, on veut te nettoyer », un truc comme ça. Et c'était complètement ridicule, mais c'est aussi ça qui... C'est le registre de l'humour qui permet d'ajouter une note de... d'originalité, où on voit des Bob l'éponge et des gens avec des éponges, une rangée de CRS et la façade de la Société Générale. Donc c'est pour interpeller l'opinion publique, parce que l'objectif, c'est de bouleverser les consciences. Parce que le changement, on a besoin qu'il soit désiré par le plus de monde possible pour qu'il soit efficace. On ne veut pas seulement des lois qui ne sont pas respectées, on veut des lois que les personnes, que tout le monde veut respecter, parce que les personnes ont compris que c'est dans l'intérêt général de le faire. Et ça, c'est la force de la stratégie de lutte non violente, c'est de changer les mentalités, de trouver les bons moyens d'action pour bouleverser les repères des gens et pour aussi les obliger à prendre position. C'est quand on voit les activistes à peau qui sont matraqués et gazés, ou les activistes d'Extinction Rebellion sur le pont de Sully l'année dernière, qui se sont fait gazer, les images ont fait le tour des médias, et bien ça, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas la répression, hein, mais en tout cas, quand on l'a, il faut l'utiliser pour que les personnes se disent « mais en fait, c'est inacceptable, on ne peut pas traiter des gens comme ça, et en plus, et pourquoi ils étaient là ? Ah oui, bah, en fait, en plus, ils ont raison, en fait. » Donc, c'est ça qu'on cherche avec nos actions. Et donc, quand on élabore nos stratégies de lutte non violente, on pense toujours en termes de rapport de force. C'est comment est-ce qu'on fait augmenter le rapport de force avec notre adversaire. Il y a une chanteuse qui s'appelle Kenny Arcana, une rappeuse, qui dit « Ils ont le chiffre, nous avons le nombre ». Et c'est pour ça que la non-violence, enfin la force, une des forces de la non-violence, c'est aussi le nombre. Et c'est pour ça qu'on dit que notre objectif, c'est de créer un mouvement de masse. On a besoin d'être beaucoup. Un mouvement qui est radical, parce qu'on veut changer les choses à la racine. On ne veut pas seulement mettre des pansements. Qui soit non-violent, pour tout ce que je viens de vous expliquer en termes d'image et de bouleversement des consciences, c'est fondamental. Et en plus, ça préfigure la société dans laquelle on veut vivre. Enfin, nous, on ne veut pas vivre dans un monde violent. Donc, pour nous, la fin... Elle justifie les moyens. Et on ne peut pas vouloir un monde en paix en l'obtenant de manière violente. Mais c'est plutôt dans la culture de la bienveillance, de l'efficacité et des rapports interhumains bienveillants qu'on va arriver à être plus efficace et déjà à montrer l'exemple de la société dans laquelle on voudrait vivre. Et mouvement est déterminé, on l'a rajouté à la fin parce qu'il faut vraiment être déterminé pour y aller, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, on a différentes campagnes qui sont en cours. Vous avez vu les actions Amazon, les Amis de la Terre ont mis beaucoup de force sur une campagne contre Amazon, qui est quand même un peu un symptôme du système qui est rentré dans toutes nos vies, qui est au bout de nos mains, dans nos téléphones, etc., etc. On a lancé une campagne avec c'est le groupe de Lyon qui a lancé ça, la campagne Pub Buster, qui sont des actions anti-pub qui s'attaquent aussi à l'imaginaire qu'on a, puisque la publicité nous retient dans un ancien monde. Et donc les autres, j'ai dit, décrochons Macron, les alternatives territoriales. On a une campagne aussi, enfin les Amis de la Terre, contre la finance climaticide. Et pourquoi on a tout ça? Parce que c'est important d'avoir beaucoup de portes d'entrée dans le mouvement et d'agir là où on peut gagner des batailles. Parce que le plus de batailles on gagne, le plus on montre que c'est possible de faire changer les choses. On se sent souvent comme David contre Goliath, mais en fait, on gagne plein de choses. Et à chaque fois qu'on gagne, et ben, ce sont des émissions de gaz à effet de serre en moins qui sont dans l'atmosphère, et c'est une meilleure vie pour des personnes. Et donc, on a une mobilisation énorme, là, la mobilisation climat a vraiment pris une ampleur énorme en 2018, avec les marches climat, avec l'appel de Greta Thunberg, et on a, avec Alternatiba, dans énormément de territoires, vraiment apporté de l'aide aux marches climat pour qu'elles marchent, et aussi apporté notre message radical de changement de système et de qu'est-ce que ça signifie, etc., etc. Et ça, c'est une porte d'entrée énorme dans notre mouvement. En tout cas, moi, je fais partie du groupe de Paris parce qu'en ce moment, j'habite à Paris. Et le nombre de bénévoles qui sont entrés dans le mouvement grâce aux marches, il est énorme. Et pourtant, les personnes, au début, elles arrivent, elles veulent juste prendre part au mouvement, mais elles n'ont aucune idée de l'ampleur de la tâche et de tout ce qu'on peut faire pour concrètement passer à l'action. Et ces marches-là, elles renforcent aussi la portée de nos autres actions, parce qu'elles ont ouvert vraiment dans les médias et dans l'opinion publique un débat sur le climat qui n'était pas présent avant et qui permet d'aller plus loin dans nos revendications. Hein, c'est, dans les médias, on a la fenêtre d'Overton de qu'est-ce qui est entendable ou pas. Si on est en dehors, on n'est pas du tout entendu. Et nous, notre objectif, c'est de l'ouvrir le plus possible. Et quand elle s'ouvre toute seule, bah, on va encore aller plus loin pour l'ouvrir un tout petit peu plus. Et ça, c'est nécessaire. Et donc, c'est pour ça que tous les moyens d'action sont nécessaires. Et on ne peut pas dénigrer les marches climat en disant « oui, machin, ça ne va pas servir ». Si, en fait, ça sert. Et c'est comment réfléchir au mieux à comment tirer profit de tout ce qui se passe et apporter notre aide et apporter des nouvelles actions pour élargir les secteurs de la population mobilisée. Les procès là, des décrocheurs, on a mobilisé des scientifiques qui sont venus témoigner. Il y a Christophe Cassou qui était à Paris, donc qui rédige le prochain rapport du GIEC, qui est venu témoigner pour défendre les décrocheurs et décrocheuses parisiennes. Et ce n'est pas le seul. On continue à s'allier avec les mouvements sociaux. Donc les Gilets jaunes, j'ai dit tout à l'heure, on a fait beaucoup d'actions avec eux et on a encore beaucoup de liens avec ce que sont devenus les groupes des Gilets jaunes. La campagne contre Amazon, elle a permis de créer des alliances avec les petits commerçants. Et ça, c'est pas forcément gagné parce que souvent, ils sont plutôt de droite. Mais justement, là, on a un terrain d'entente. En fait, Amazon est en train de vous tuer. Et nous, on bataille là-dessus. Donc c'est pareil, on s'ouvre à un public qui, normalement, n'est pas réceptif à nos actions. On a été partenaire de la marche pour Adama le 18 juillet dernier, donc le mois dernier. Et ça, c'est pareil, c'est le résultat d'un travail d'alliance qu'on fait avec le comité Adama, mais aussi un autre comité qui s'appelle le Front de Mer, qui est un syndicat d'associations de parents d'élèves, qui a été fondé par Fatima Wassak, qui milite dans les quartiers populaires. Et avec Alternatiba, on a toujours cet objectif de mobiliser les quartiers populaires et de mobiliser beaucoup plus large que le noyau de départ qui est passé à l'action. Et là, on est en train de se former au community organizing aussi, qui est une méthode de Saul Alinsky, qu'on ne va pas forcément appliquer telle quelle, mais qui vient enrichir nos répertoires d'action. Et il faut garder en tête que dans la stratégie lutte non-violente, nos objectifs, c'est aussi de faire changer nos adversaires. Donc quand on est face aux forces de l'ordre, elles obéissent à des ordres qui viennent de plus haut, elles obéissent à un État, elles obéissent, voilà. Mais en fait, derrière chaque policier, enfin, il y a une personne. Et nous, c'est à ces personnes-là qu'on a affaire, c'est pas aux policiers. Aux États-Unis, des policiers se sont mis à genoux dans le signe qui est devenu le symbole de la lutte antiraciste, un genou sur le sol avec le poing levé. Pendant les gilets jaunes, des policiers enlevaient leur casque devant les gilets jaunes parce qu'ils ne voulaient pas justement participer à leur répression. Donc, un jour, il faudra que... Enfin, ces personnes-là sont aussi concernées que nous par le dérèglement climatique. Et donc, c'est pour ça que l'approche doit être dans le respect des personnes, parce que sinon, le message n'a aucune chance de passer et on n'a aucune chance qu'ils viennent avec nous. L'objectif d'élargir la lutte, c'est que le mouvement climat, c'est une lutte sociale. Et donc, l'objectif, c'est de l'incarner de plus en plus, parce que seule une lutte sociale va pouvoir nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que maintenant. Et donc, j'ai presque fini. On a lancé, je ne sais pas si vous avez vu, un appel à marcher sur les aéroports le 3 octobre prochain. Donc, c'est un appel à action dans toute la France pour bloquer les aéroports. C'est pareil, on avait envie de le faire l'année dernière, mais en fait, cette année, c'était le bon moment parce que... À cause du Covid, grâce au Covid, je ne sais pas comment le dire, on ne peut pas dire grâce parce que c'est quand même horrible. On a eu tout un re-questionnement de nos modes de consommation. Et Extinction Rebellion a aussi pas mal apporté à la visibilisation de... ils ont fait beaucoup d'actions dans les aéroports aussi, notamment en Angleterre. Et donc, on a lancé cette campagne aviation. Et donc, pour finir, donc là je vous ai un peu raconté. Je vais boire de l'eau. Si on regarde là ce sur quoi on est passé, c'est l'urgence climatique, les alternatives existent, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre en réorganisant la société. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour être de plus en plus nombreux et nombreuses et de plus en plus efficaces pour emmener de plus en plus de monde avec nous. Et ça, c'est la force du réseau. Donc Alternatiba, on a 140 groupes qui sont majoritairement en France, mais on a aussi un groupe en Suisse, un groupe au Sénégal, deux groupes au Congo et 27 groupes en Haïti. Donc on a une dynamique qui devient un peu internationale. La caractéristique, Alternatiba a des méthodes d'organisation qui lui sont propres, qui sont partagées donc avec ANVCOP21, avec les Amis de la Terre, et qui sont des méthodes que vous allez apprendre sur ce camp climat, en termes de méthodes d'animation, de respect des horaires, d'interaction entre les personnes. Donc je parlais de bienveillance tout à l'heure, c'est la non-violence fait partie de la culture de notre mouvement, parce que on a besoin déjà d'expérimenter ce qu'on propose pour demain, et ça on y travaille tous les jours dans les relations entre nous pour construire les différents événements. Donc c'est la fin et dans les moyens. Les moyens sont le type de moyens utilisés pour gagner quelque chose, pour faire avancer la société, conditionne ce qu'on va obtenir. Et donc, tous les groupes qui sont déjà formés, leur objectif, c'est quoi? C'est de s'ancrer sur le territoire. Donc, on a de plus en plus d'alternatives bases. Donc, ce sont des bases avec des locaux qui permettent d'avoir un endroit, un stockage logistique, qui permettent d'avoir un pignon sur rue, c'est-à-dire d'être une porte d'entrée pour des nouvelles personnes qui vont venir pour des raisons diverses et qui vont devenir rapidement bénévoles. La mission, c'est aussi d'avoir un plan de métamorphose du territoire, donc d'agir du côté des alternatives. C'est de s'opposer aux projets qui sont en local, qui vont aggraver le dérèglement climatique. Ce sont aussi beaucoup de projets de solidarité. Pendant le Covid, il y a beaucoup d'Alternatiba qui ont mis en place des projets de solidarité pour des personnes très vulnérables. Et l'objectif de stabiliser des militants et des militantes. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui quittent leur travail, ou des étudiants qui ne veulent pas rentrer dans le système actuel parce qu'ils ne veulent pas participer en fait à entretenir le système. Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent passer leur temps, ou du temps, beaucoup de temps, à militer, à faire avancer la lutte le plus vite possible. Et ça, c'est pareil, il y a certainement des solutions à trouver au niveau local pour créer des emplois, et c'est aussi un des axes de développement du mouvement. Et donc, pour finir, on dit qu'il y a deux moments, deux bons moments pour planter un arbre. Le premier bon moment, c'était il y a 20 ans, et le deuxième, c'est aujourd'hui. On a tous, il y a un historique des luttes, on est tous héritières et héritiers de luttes qui ont été menées pour les droits des femmes, pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour vivre en démocratie. En fait, les luttes sont innombrables. On a tous, on est dans un chemin qui a déjà été tracé. Et on arrive dessus, et c'est à nous de le faire continuer. Et si vous voulez plus d'informations, on a un livret d'accueil. Donc je vais avoir un stand, je ne sais pas où, peut-être ici dans la pièce, avec des informations sur Alternatiba, sur NVCO21, sur les Amis de la Terre, avec différents documents d'information. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi des ressources sur le site internet. Et en tout cas, j'espère que... Je suis désolée, c'est un module qui est assez long, mais je m'arrête là. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas à quelle heure on doit terminer. Maintenant, je crois. Donc, si vous avez des questions, sinon, vous pouvez venir les discuter avec moi au stand avec plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et bon camp climat.